Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez bien l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exposition Enfantée, une évolution des pratiques à l'hôpital de Grenoble. Et vous pouvez y aller jusqu'au 13 mai au musée grenoblois des sciences médicales. Et pour ce faire, nous sommes accompagnés de Sylvie Bretagnon, chargée des affaires culturelles du CHU Grenoble-Alpes et responsable du musée des sciences médicales. Bonsoir.
Bonsoir.
Avant de se lancer sur l'exposition Enfantée, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur la dernière exposition Cousu Humain qui a eu lieu?
Ah, alors elle a eu lieu il y a quelque temps maintenant, j'ai plus les dates en tête, mais c'était une exposition pour raconter le développement de la chirurgie de cette discipline hospitalière donc au sein de l'hôpital de Grenoble. Et simplement pour dire que dans le cadre de cette exposition, on n'avait pas du tout abordé la chirurgie gynécologique et la chirurgie pédiatrique, très peu. Et du coup, c'est pour ça qu'on a lancé l'exposition Enfantée.
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une exposition du coup, qui retrace l'évolution de la prise en charge hospitalière de la femme enceinte et de l'enfant à l'hôpital de Grenoble. Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette exposition-là et pourquoi c'était important de faire cette exposition-là?
Alors l'idée donc, pour nous, c'était de compléter justement le travail qu'on avait fait avec l'exposition Cous Humains où on n'avait pas du tout abordé cette thématique.
C'est un peu une continuité.
C'est une continuité, tout à fait. Et surtout également aborder cette thématique de l'enfantement pour montrer au public... qu'aujourd'hui, si on vient accoucher à l'hôpital, c'est qu'il y a bien des raisons. Il y a les progrès de la médecine, il y a les progrès de l'espace hospitalier, l'amélioration du confort. Et c'est ce qu'on découvre à travers l'exposition.
Du coup, l'exposition, elle part du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui.
Oui, on montre comment au XVIe siècle, il y a une injonction faite aux femmes à se déclarer auprès des autorités lorsqu'elles n'ont pas de mari, qu'elles sont seules. On veut lutter contre le fait qu'elles se défassent de leur enfant, en fait. Et du coup, progressivement, on montre comment dans le Dauphiné, les femmes accouchent la plupart à domicile, souvent par le biais de femmes qui les accouchent, qui ne sont pas forcément formées, mais qui ont malgré tout de vraies connaissances, et progressivement comment il va falloir former ces femmes pour préserver la santé, leur santé à elles, mais également la santé de l'enfant à naître.
Et bah d'ailleurs, on a un petit extrait à ce propos, des métiers de sage-femme et d'accoucheuse. On va mettre un petit extrait.
Au XVIIIe siècle, l'accouchement est une affaire principalement féminine. Les hommes, même les pères, sont exclus de ce moment. Les femmes accouchent généralement à domicile, assistées par des matrones ou des sages-femmes qui possèdent une connaissance empirique transmise de génération en génération. Ces matrones sont choisies par la communauté et doivent avoir des qualités morales sans faille puisqu'elles sont appelées à baptiser le nouveau-né en cas d'extrême urgence. Les médecins, les chirurgiens, presque exclusivement des hommes, sont rarement impliqués sauf en cas de complications graves. Ces chirurgiens, surtout en ville, de plus en plus avec l'avancée du XVIIIe siècle, font passer des examens aux accoucheuses pour vérifier leurs connaissances et leurs pratiques. Les conditions d'hygiène sont précaires et les risques d'infection sont élevés. Les techniques d'accouchement sont rudimentaires et les instruments, comme les forceps, commencent à peine à être utilisés. On connaît l'édition d'un ouvrage répertoriant toutes les connaissances de l'époque en 1781, L'art de l'accouchement de Bodlock. Cette diffusion reste toutefois assez cantonnée aux villes. La mortalité maternelle et infantile est élevée et de nombreuses femmes et nouveau-nés succombent à des complications pendant ou après l'accouchement. Malgré ces défis, l'accouchement reste un moment de grande importance sociale et familiale.
Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'extrait qu'on vient d'écouter? Je vous ai vu réagir.
Oui, je l'apporterai des nuances. Oui. C'est que je pense qu'on a vraiment dénoncé les matrones, ce savoir empirique, alors que les femmes faisaient ce qu'elles avaient à faire et on les appelait pour les accouchements. C'est vrai qu'à partir du XVIIIe siècle, quand ça ne va pas très bien, on va appeler le médecin. On a un exemple dans l'exposition où on fait venir le médecin pour gérer une situation qui ne se passe pas très bien. Mais je pense surtout que au XVIIIe siècle, les hommes ont voulu s'emparer de ce savoir-faire, s'en accaparer et du coup vont dénigrer ce savoir des femmes, vont se l'approprier. Malgré tout, on a Madame du Coudray qui va traverser tout le royaume et qui va venir à Grenoble, qui va faire son enseignement et puis progressivement le cours d'accouchement va se développer. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même relire un peu tout ça peut-être différemment.
Et aujourd'hui, est-ce que c'est l'accouchement, est-ce que c'est encore une histoire de femme ou pas?
Pas tout à fait, parce que depuis le XVIIIe siècle, les hommes s'en sont emparés, qu'aujourd'hui, on a des sages-femmes qui sont hommes. On a, dans le cadre de l'exposition, on a des démonstrations d'accouchement. Et c'est Lionel Di Marco, qui est le directeur de l'Institut de maïeutique, qui est venu faire les démonstrations et qui va venir encore pour la prochaine fois. Donc voilà. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est l'histoire d'un couple, enfin, un couple homme, d'un couple femme ou d'un couple homme et femme. Voilà, mais...
Du coup, c'est des deux démonstrations. Il y en aura une le 21 avril et une le 5 mai.
C'est... Oui, tout à fait. Oui.
Du coup, c'est sur un simulateur pédagogique, c'est du matériel qui est utilisé
alors,
en formation ou...
Exactement, ouais. bonne remarque. Dans l'exposition, nous avons la chance d'avoir un mannequin, ce que l'on appelle un budin pinard, qui date de la fin du 19e siècle, qui est en bois, en caoutchouc, assez en mauvais état. Et donc, on le met en perspective avec un simulateur que nous avons acheté ensemble avec l'Institut de maïeutique et qui permet de faire la démonstration d'un accouchement qui, généralement, va bien se passer. Voilà. Donc, en effet, on utilise ce type de mannequin.
Et oui, il y a déjà une démonstration d'accouchement qui a eu lieu le 10 mars.
Oui, on en a eu plusieurs l'an dernier même.
Et vous avez des retours un peu des personnes qui ont assisté
Ah oui, c'est vraiment apprécié. Moi, enfin, j'invite les personnes qui pensent tout savoir ou tout imaginer sur ce moment-là à venir, parce qu'en plus, ça permet d'avoir une discussion avec une personne du métier. Même moi, pour ma part, qui ai accouché de deux enfants, j'ai trouvé vraiment intéressant d'assister à ça. Et je me suis dit que, jeune maman, j'aurais peut-être aimé avoir cette démonstration-là.
Oui, avant, oui. Ouais. Et pour y assister, il faut réserver ou...
Pas du tout. Non. Vous venez. On n'est jamais trop nombreux. Voilà. On peut être jusqu'à 20-25 personnes et en général, c'est dans la journée, donc on vous accueille facilement.
Oui. Et il y a aussi des visites guidées qui sont organisées?
Alors oui, on fait des visites guidées, donc les dates sont sur le site, je ne les ai pas là en tête. Mais l'idée, ce sont des visites guidées qui sont assez rapides. C'est soit ma collègue Céline Canard qui gère également l'accueil, qui fait la visite, ou bien moi-même. Et l'idée, c'est d'appréhender l'exposition qui est en deux parties, une partie historique, une partie beaucoup plus thématique, et de traverser l'exposition guidée par nos propos.
Qu'est-ce qu'on trouve dans cette exposition? Il y a des photos, du dessin, des outils.
Alors, on débute en découvrant justement des ouvrages. Je pense qu'il faut se rappeler que le livre a été le principal moyen de diffuser les connaissances pendant très longtemps. Ensuite, on va découvrir également des objets, notamment des spéculums, des stéthoscopes, des forceps, des photographies. On a vraiment un fond. Alors, à la fois, on a fait appel au fond Flandrin, qui est un fond qui est déposé au musée dauphinois, et puis nous, aux collections que l'on a. Et également donc du matériel pédagogique. On a reconstitué un espace de chirurgie qui montre une salle dans les années 1930. Et puis ensuite, on a une partie beaucoup plus thématique où on va redécouvrir les apports du XXe siècle, notamment la lutte contre la contraception, l'aide à la procréation médicale assistée, tout ce qui est PMA et qui s'est fait grâce au progrès à partir des années 1980. Ensuite, on va des images, tout ce qui touche à l'échographie, l'évolution aussi de l'échographie. On n'imagine pas, mais en 50 ans, les progrès sont vraiment énormes. Et puis ensuite, tout ce qui touche à la prise en charge de l'enfant qui va naître avec des complications ou qui va naître trop tôt, donc l'incubateur, le bébé, les soins qu'on va lui apporter.
Oui, c'est sûr que l'accouchement à l'époque, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué et je suis un peu allée voir des images de l'exposition et moi ça va, enfin voir les outils qui étaient utilisés, c'est un peu...
Non, alors il faut pas du tout le prendre comme ça, au contraire, c'est comprendre pourquoi pendant pas mal de temps, enfin autrefois, pourquoi il y avait des accidents liés à l'utilisation des instruments. C'est vrai que les instruments font peur. Mais malgré tout, ils restent encore utilisés. Comment ils ont évolué dans l'exposition? On montre des forceps, mais aujourd'hui, on va aussi utiliser des cuillères qui sont simplement faites pour élargir le passage et permettre à l'enfant de descendre. Et puis, on va également présenter ce qu'on voit rarement, on en entend parler, mais moi, par exemple, je ne connaissais pas avant, des ventouses. C'est une ventouse qu'on applique sur la tête de l'enfant qui va naître pour réorienter la tête et lui permettre de descendre plus facilement. Donc, voilà. Et du coup, on relativise aussi tout ça, on l'appréhende plus facilement quand on vient le voir et puis qu'on échange avec nous.
Ouais, ça permet aussi d'éduquer quoi. D'éduquer sur...
Oui, alors on n'a pas prévu l'exposition comme un lieu d'éducation, mais vraiment un lieu de partage. Après, c'est vrai que nous, les formations santé sont assez intéressées et qu'on a eu pas mal... On a eu toutes les promotions des écoles de sages-femmes là, de Grenoble et puis même les formations en santé, autres formations qui existent sur l'Isère, le département. Et on a des demandes également là, de la Savoie et de Montpellier... Voilà, donc c'est vrai qu'elle sert quand même à ça, mais on ne remplace pas ce qui se fait en institut. On ne remplace pas les années d'études qu'il faut acquérir les compétences.
C'est plus pour informer le but de l'exposition.
Oui, informer et montrer que si au départ on s'intéresse à préserver, enfin on a toujours voulu préserver la santé de l'enfant en premier, c'est ce qu'on remarque, mais quand même on va s'intéresser aussi au corps de la femme, elle va devenir une patiente à l'hôpital, l'enfant à naître va devenir un patient et on va tout organiser, l'hôpital va s'organiser autour de ces deux personnes et donc il y a aussi ça qu'on découvre, comment on devient un patient à l'hôpital, comment on est pris en charge et comment tout va se spécialiser autour de la prise en charge.
Moi j'ai encore une petite question sur les outils, est-ce que vous pensez qu'ils sont voués à évoluer dans le temps et est-ce qu'il y a toujours de la recherche pour améliorer les outils?
Alors,
modifier?
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant, mais ils ont assez peu évolué, les forceps, quand on regarde, ils ont évolué, hein. Il y a vraiment, voilà, mais malgré tout, dans la forme, ça reste la même chose. Par contre, en effet, oui, il y a des recherches qui sont faites. Là, on présente un système de ventouse qui a été développé au CHU Grenoble-Alpes par le docteur Rit Muller. Moi, je ne connaissais pas du tout, voilà, donc il y a bien sûr qu'il y a encore des choses qui se font. Il y a des choses qui se font sur l'instrumentation, mais qui se fait également sur l'imagerie. On le montre dans l'exposition. Actuellement, il y a de la recherche qui se fait sur l'imagerie fœtale entre 8 et 16 semaines d'aménorrhée. Et puis, probablement qu'il y a plein d'autres recherches qui se font également.
Et selon vous, c'est quoi la différence la plus grande, la différence la plus importante entre les pratiques d'avant et d'aujourd'hui?
La différence, c'est vraiment qu'aujourd'hui, par exemple, autrefois, il n'y avait pas du tout un respect de l'hygiène. Alors, autrefois, hein, on va dire, voilà, 18e siècle et aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même une prise en charge qui est vraiment globale. La femme, elle est prise en charge dès le début de sa grossesse. On va diagnostiquer sa grossesse, on va l'accompagner. En France, on a 3 échographies gratuites. Donc, la femme, on va pouvoir, voilà, si quelque chose se présente mal, eh ben, elle va pouvoir être prise en charge. On montre l'exemple, par exemple, d'un... Aujourd'hui, on est capable de diagnostiquer grâce à l'échographie une malformation. Là, on a un exemple, c'est une sorte de grosseur au niveau du cou sur le fœtus qui est à naître. Et en fait, on explique que, voilà, aujourd'hui, il y a une concertation des médecins qui vont essayer de se rendre compte de la gravité ou pas. Et donc, dans le cadre, le cas qu'on présente, le cas n'est pas très, très grave. Par contre, on va amener l'enfant à naître dans des conditions assez sécurisées puisqu'on va faire une césarienne. On ne va pas couper le cordon ombilical de cet enfant. On va enlever cette tumeur qu'il y a sous le cou et ensuite on va refermer, on va couper le cordon et on a un enfant qui va pouvoir continuer après sa croissance de façon normale. Autrefois, c'était des enfants qui mouraient. Mmh. La mortalité infantile, elle a énormément baissé. Ben il faut aller voir une courbe. On la montre au début de l'exposition. C'est vraiment le progrès, quoi.
Moi aussi, la mortalité aussi, voilà. des mères aussi.
Des mères et des enfants. Ouais. Par contre, ici, je veux pas... moi, dans l'exposition, et puis voilà, on n'est pas là pour défendre s'il vaut mieux accoucher à l'hôpital ou à la maison. Enfin, ça, c'est un autre débat, parce qu'on peut quand même accoucher à la maison aujourd'hui et encore, être suivi. Ouais. C'est pas du tout le débat de l'exposition.
Et est-ce que vous avez eu des retours de personnes qui sont venues voir l'expo ?
Ben oui, on a un livre d'or qui est assez étonnant. Enfin, je vous invite à venir. J'aurais dû l'apporter. Tiens, on aurait pu lire ensemble des commentaires. Ça, voilà. Non, c'était. Vous pourrez les rajouter. Non, on a eu vraiment des. Alors, on a eu des gynécologues qui sont venus en nous disant : mais moi, là, j'ai vu toute ma vie défiler. Parce que oui, on voit que dans les années 60, les choses ont changé, les structures hospitalières, des lieux ont été aménagés dans l'hôpital pour prendre en charge les femmes, les accompagner, voilà. Et puis on a toujours, franchement, on a beaucoup de retours positifs. Qui nous encourage sur toutes les expositions qu'on a portées, parce qu'on est vraiment sur une thématique un peu les seules, hein, sur la région, même, voilà. Et du coup, les personnes sont contentes de voir un peu ces thématiques traitées comme ça par le musée.
Vous avez quel type de public ?
Alors, on a beaucoup de public qui est fidèle, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont venues voir les anciennes expositions et qui vont revenir. Parce qu'elles connaissent notre travail. Ensuite, on va avoir les formations paramédicales et les formations médicales qui vont également s'adresser à nous. On a le personnel hospitalier qu'on invite assez régulièrement par le biais de mails qu'on adresse au personnel et qu'on invite à venir visiter l'exposition dans le cadre de visites guidées assez courtes et qui leur permet voilà, de voir l'expo. Et puis après, on a du grand public qui vient. Voilà, on est ouvert deux après-midi par semaine, le mardi et le mercredi après-midi. Et voilà. Bon, on a peu de... Et on n'encourage pas, j'encourage pas le public scolaire, enfin, parce qu'on est après sur des discussions, il y a un travail de médiation à faire et voilà, c'est un peu lourd à organiser.
Oui, mais c'est sûr. Voilà. Et du coup, c'est vous qui avez organisé toute la construction de l'exposition ?
Alors, on a réuni un conseil scientifique. Moi, je travaille avec une association qui est derrière le Musée des sciences médicales, qui compte d'anciens professionnels de santé, des hommes et des femmes. Et sur cette exposition-là, on a demandé à Claude Racinet, qui était ancien obstétricien à l'hôpital, de venir nous donner et de nous accompagner sur le travail. Elisabeth Lemeunier, qui était puéricultrice, qui nous a vraiment aussi accompagnés. Chantal Durand, qui était radiologue pédiatre et qui assume aussi des visites guidées avec nous et qui nous a fait comprendre les progrès de l'évolution de l'imagerie pédiatrique et fœtale. Voilà, donc il y a une sorte de conseil scientifique. Et pour ma part, je suis historienne de formation et voilà, j'ai plus une vision globale et documentaire. Moi, je travaille beaucoup sur la documentation, je rassemble justement les objets, les documents iconographiques, l'écriture des textes, voilà. Le travail de synthèse.
Ça a dû prendre énormément de temps.
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous avez commencé à construire l'exposition à quel moment ?
Il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, voilà.
Travail colossal.
Voilà, et là on est déjà en train de travailler sur la prochaine exposition.
Oui, vous enchaînez. Et comment vous vous sentez personnellement par rapport à l'exposition ? Est-ce que vous en êtes satisfaite ?
C'est chouette comme question. Non, pas suffisamment satisfaite parce que je pense que on se rend compte peut-être de défauts ou de voilà, donc pas entièrement satisfaite, mais malgré tout, je trouve que c'est un bel outil pour aborder la thématique. Vraiment, j'en suis convaincue, puis c'est vraiment les retours qu'on a eus. On aborde toutes les questions, on aborde des questions difficiles, sur des erreurs peut-être qui ont été faites dans les années 80, quand on a voulu stimuler la grossesse avec la thalidomide et puis un autre médicament, et où ça a entraîné des malformations chez les enfants à naître. Donc on aborde vraiment, on est allé vraiment chercher même les voilà, ces pans-là de la médecine qui ne sont pas forcément très glorieux, mais qui permettent de comprendre aussi pourquoi on a fait...
C'est important d'en parler, oui.
Exactement.
Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'exposition ?
Non, simplement qu'il faut venir la voir, se dépêcher, puisqu'on va fermer définitivement le 14 mai. Donc voilà, quoi. C'est ouvert le mardi, le mercredi. On sera fermé pendant les vacances de Pâques. Et que si vous voulez venir en groupe, on vous accueille dans le cadre d'une visite guidée. Vous nous contactez.
Et qu'est-ce que vous voulez que les personnes retiennent en venant à cette exposition ?
Ah, c'est que l'hôpital aujourd'hui tel qu'il est, c'est lié à une grande histoire, quoi, l'histoire des sciences, l'histoire de la médecine, l'histoire de la société, que ça évolue, qu'il faut s'adapter. Enfin, on comprend que dans les années 90, on ne peut plus se satisfaire, par exemple, de locaux hospitaliers qui ne sont pas adaptés pour prendre en charge la femme et l'enfant, et que du coup, on va construire, on va inaugurer, c'est en 2008, il me semble, le nouvel hôpital couple enfant qu'aujourd'hui tout le monde connaît, qui est derrière le port de la tronche, mais voilà quoi, c'est ce que ça permet de comprendre l'exposition.
Et n'hésitez pas à aller voir l'exposition au musée des sciences médicales grenoblois, et merci à vous d'être venu pour parler de l'exposition. Et merci à Zoé, à la technique, et si vous avez rien d'autre à rajouter,
non.
Nous nous retrouvons pour une prochaine apérophonie. Bonne soirée.
L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !